France Culture, les matins d'été, le journal de la culture.
Avec Victor de Quiver. Bonjour Victor.
Salut Benoît.
Qu'y a-t-il au programme de votre journal de la culture aujourd'hui?
Nous parlons cinéma ce matin, Benoît. C'est un des films français les plus intéressants de cette année. Nocturama de Bertrand Bonello met en scène un groupe de jeunes terroristes. Des jeunes terroristes qui décident de faire sauter plusieurs endroits clés de Paris. La statue de Jeanne d'Arc, le ministère de l'Intérieur, une banque. Bertrand Bonello m'a donné rendez-vous lundi soir sur la terrasse de son distributeur, Wild Bunch. Sur cette terrasse, on voyait Paris, le quartier de la Défense, au loin, et une partie des bâtiments que le cinéaste fait exploser dans son film. Ce qui fera sans doute débat à la sortie du film mercredi prochain, c'est que Nocturama de Bertrand Bonello prend le parti de ne jamais expliquer pourquoi ces jeunes passent à l'acte.
En effet, j'ai considéré que tout ce qui est de l'ordre du discours, de l'explication, vient avant le film, c'est-à-dire les moments où ils en parlent, et que moi j'étais beaucoup plus intéressé à démarrer le film le jour J, donc dans l'action. Mais un acte, c'est aussi quelque chose par lequel on se définit. L'action aussi est discours, et il ne me semblait pas nécessaire, quand on voit un peu le monde dans lequel on est, d'avoir à justifier que des gamins de 18-20 ans puissent avoir ce ressenti-là et poser ce geste pour avoir envie de poser un refus, en fait. Ça m'intéresse beaucoup plus de voir comment ils fabriquent ça, de les accompagner dans ce moment-là, d'avoir cette incarnation-là, plutôt que des mots.
Vous en savez plus ou pas? Moi, j'ai pas trop suivi ce qui se passe.
Bah non, c'est pas grand-chose de plus. Il y a eu plusieurs bombes simultanées, des trucs en feu. Là, on dirait que ça s'est calmé, mais on sait pas trop. Il y en a qui hurlent de joie. Puis, tu croises des gens en larmes qui disent que c'est la guerre. Mais je pense que c'est bon, hein. Là, c'est fini.
Les mecs qui ont fait ça, on en sait un peu plus, quoi.
Apparemment, on les retrouvera. Mais il n'y a pas de revendication. Valls dit qu'il y a des pistes sérieuses, mais il veut rien dire de plus. Il a juste dit que c'était pas forcément des étrangers. Mais de toute façon, franchement...
Franchement quoi?
Bah franchement, ça devait arriver, non?
On s'attendait à voir des jeunes islamistes, et c'est pas le cas en fait.
Oui, il faut pas du tout voir le film à cet endroit-là, il faut plus le voir à l'endroit d'une jeunesse un peu assommée qui décide de le faire entendre. Si on essaye de relier à l'actualité, on n'est pas au bon endroit.
Il propose quelque chose aussi dangereux et violent que l'acte soit. Il y a quand même une démarche collective là qui se joue entre cette jeunesse. Est-ce que c'est ça aussi? C'est vraiment comment la jeunesse doit se saisir du monde qu'on leur laisse pas encore tout à fait, ou comment ils doivent le réinventer?
Mais c'est à cet endroit-là que moi je trouve que le film est quand même assez politique, justement. C'est dans cette recréation d'une société à l'intérieur d'une société.
Et cette recréation d'une société à l'intérieur d'une société se fait dans Nocturama, dans un centre commercial.
Ce sont des lieux assez incroyables, hein, qui m'ont toujours fasciné. Ces recréations du monde à l'intérieur du monde, cette proposition d'un monde soi-disant ou virtuellement parfait, où tout ce dont on a besoin est là, présent. Mais il y a quelque chose dans ce lieu qui, pour moi, est synonyme de terreur.
Parce que c'est quoi? C'est le paradoxe entre cette jeunesse qui à la fois se cherche un destin, une politique, et en même temps se réfugie dans un centre commercial, et ils n'ont pas l'air d'être si mal, en fait, pour attendre là-bas.
Bah, ça fabrique une ambiguïté, un contraste, mais c'est dans cette ambiguïté que je trouve que le film est quand même assez contemporain, parce qu'il devient le reflet de l'ambiguïté du monde dans lequel on vit, qui est beaucoup plus difficile à décrypter. On le voit bien d'ailleurs qu'il y a très peu d'analyses qui nous parlent, de penseurs qui nous relèvent. Enfin, c'est très complexe, beaucoup plus complexe que ce que ça ne l'était dans les années 70, où on entendait comme ça des discours très politiques et on était d'accord ou pas d'accord, mais il y avait une espèce de clarté. Là, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, on peut être altermondialiste et acheter un t-shirt chez H&M fabriqué en Chine.
Voilà, par exemple, où on peut se dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir un mélange de capitalisme et de terrorisme, que tout se mélange. Les lignes sont moins claires que ce qu'elles l'étaient. Oui. Après, ce qui était très bien, c'est qu'on a tourné à la Samaritaine pendant 6 semaines, donc moi je pouvais y aller là tous les samedis tout seul, et dans le décor, au calme, sans stress du temps, avec juste un petit viseur de champ, vraiment réfléchir les mouvements, les focales, les penser au maximum. Et comme ça, quand l'équipe arrive pendant la semaine, moi je leur propose quelque chose de très 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 abouti, et après bon, on ajuste.
Vous aussi, vous avez attendu dans ce magasin tout seul alors?
J'ai passé tous mes samedis, oui, avec uniquement un pompier, et c'est honnêtement, c'est une drôle d'expérience.
Et si Bertrand Bonello passe certains samedis à la Samaritaine, il a aussi le temps d'aller au cinéma, figurez-vous.
Ça tombe bien parce qu'on va beaucoup parler de cinéma ce matin dans la partie culture des matins d'été. Bonjour Alain Guiraudy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, on va parler de votre film. Évidemment tout à l'heure, Restez Vertical, qui sort aujourd'hui avec France Culture. L'histoire de Léo, cinéaste en mal d'inspiration, qui vous correspond pas à ce niveau-là, hein, puisque c'est pas votre problème, le manque d'inspiration, Alain Guiraudy.
Ou alors c'est une projection, peut-être que ça pourrait l'être un jour, et voilà, je sais pas ce que je ferai ce jour-là.
Conjuration Victor, vous avez demandé à Bertrand Bonello ce qu'il avait pensé de Rester Vertical, le film d'Alain Guiraudy.
Oui, effectivement, il l'a vu, et Benoît, c'est vraiment pas beau à entendre.
J'ai trouvé ce film-là alors totalement différent de L'Inconnu du Lac. Je pense que j'ai préféré celui-ci, même si l'autre est à un côté quasi parfait comme ça. Là, il y a peut-être deux, trois choses un peu moins abouties que d'autres et tout, mais l'ensemble pour moi est plus étonnant, et je trouve le film en fait très, très, très beau sur la solitude et très touchant là-dessus.
Sur la peur aussi, moi je me dis que c'est un grand film sur la peur où il fallait qu'on affronte notre peur les plus intimes.
Oui, bah, cette peur fabrique de la solitude, et je trouve qu'il a réussi ça dans le film avec beaucoup de beauté, parfois de la légèreté, sans aucune lourdeur, quoi. Et notamment cette scène à la fin dont on m'avait beaucoup parlé. Enfin, c'est surtout une scène que je trouve extrêmement douce. C'est vraiment un homme qui dit au revoir à un autre homme, et je la trouve d'une très grande douceur.
Alain Guiraudy, on pense souvent que la peur produit de la solitude, ça peut être l'inverse aussi parfois.
Je suis assez troublé parce qu'effectivement, j'avais pas forcément pensé en ce sens-là. Oui, effectivement, je dirais que la solitude produit de la peur. J'aurais plutôt tendance à le voir dans ce sens-là, oui. Ouais.
Qu'est-ce que vous réagissez là? Est-ce que vous entendez ce quitus là de Bertrand Bonello?
Oui, c'est super agréable à entendre, c'est vachement bien. Non, mais même c'est assez éclairant, quoi. J'ai pas fini d'y penser à cette histoire de peur et de solitude.
On continue ce journal de la culture. On va vous retrouver dans un instant, Alain Guiraudy. Victor, vous nous emmenez où ce matin?
Nous partons ce matin à Sablé-sur-Sarthe, et on va peut-être rester dans une thématique guiraudienne parce qu'on va parler de genre, enfin du genre dans la musique baroque. Le festival de Sablé dure jusqu'au 28 août. Festival de musique baroque. Pour rappel, la musique baroque renvoie à un répertoire composé entre 1600 et 1750, année de la mort de Bach. Le festival de Sablé, lui, a accompagné la démocratisation de cette musique à partir des années 70, décennie où la France se repassionne pour la musique ancienne. À Sablé-sur-Sarthe, on pourra entendre entre autres du Vivaldi ce soir et demain du Handel. Mais parlons-en avec Alice Orange, la directrice artistique du festival. Bonjour Alice Orange.
Bonjour.
Cette année, comme je le disais dans mon chapeau, la thématique principale est le genre dans la musique baroque. Comment est-ce que la question du genre était présente à l'époque baroque, Alice Orange?
Elle était présente d'abord sur les scènes, puisqu'il y avait beaucoup de rôles androgynes, de travestissements qui étaient là pour servir l'intrigue. Et puis, il y a bien sûr aussi ces voix extraordinaires dont tout le monde a entendu parler, qui sortent de leur registre habituel, à savoir les voix de contre-ténor et les voix de contralto, par exemple, qui permettent de réjouir aussi l'oreille avec des sonorités un petit peu surnaturelles que le public attend.
Oui, c'est ça, la question de la virilité, par exemple, ne se jouait pas forcément sur une question de hauteur de voix.
Pas du tout, et je dirais même que le problème se situe à un autre niveau, puisque les castrats étaient vraiment considérés qui jouaient donc ces rôles de contre-ténor, donc ces voix masculines aiguës, étaient vraiment considérés même comme des personnes qui étaient au-dessus, je dirais, que de la condition humaine. Donc il y avait une vraie expérience du spectateur par rapport à ça, qui venait effectivement pour être fasciné par ces chanteurs, pour découvrir une voix surnaturelle. Et pour répondre concrètement à votre question, effectivement, tous les vaillants, par exemple, conquérants qui peuplent les opéras de Handel, sont pas du tout ridiculisés en chantant aigu. Bien au contraire, ils gagnent en charisme et en profondeur pour le public, en tout cas.
Alors, il faut dire quand même, Alice Orange, que si on jouait avec le genre sur scène, il y avait une différence de traitement entre les pays. Le traitement n'était pas le même en France qu'en Italie. C'est bien ça, Alice Orange?
Il se trouve qu'en France, si vous voulez, on a bien sûr des expériences de travestissement, et le roi, enfin Louis XIV lui-même, s'est de nombreuses fois travesti dans des ballets. Il joue par exemple une fille de village, etc. Mais premièrement, ça reste dans l'entre-soi de la cour, et puis on reste aussi dans un genre qui est comique. Et je crois que finalement, le genre comique permet toujours plus de liberté. Donc c'est pas forcément le meilleur curseur pour voir à quel moment le ton se libère sur un sujet. En Italie, effectivement, la société n'est pas la même. Déjà, il y a l'Italie baroque, c'est aussi le carnaval, c'est-à-dire ce moment où les gens se masquent, où toutes les classes sociales sont mélangées, où la musique populaire aussi côtoie la musique savante, et où finalement tout est permis. Hein. Faut pas oublier que Venise a été un temps renié aussi par le pape à cause de ça. Donc on ressent aussi sur les scènes un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et puis il y a aussi autre chose de très important, c'est qu'à cette époque à Venise, le théâtre fait quand même recette, hein. C'est-à-dire que le public aime les castrats, on va leur donner à voir des castrats, donc il y a un côté très très commercial qui fait aussi que la liberté de ton s'inscrit dans un contexte qui est très précis à ce niveau-là. Donc effectivement, dans tout le répertoire de l'opéra seria, il y a effectivement une véritable, je pense, liberté de ton là-dessus, avec des personnages qui peuvent être travestis, androgynes, mais pas du tout pour servir un comique pompier. Au contraire, véritablement pour finalement jouer sur l'invraisemblance psychologique et trouver une vérité artistique supérieure.
Oui, hein, et même si on ne découvre pas non plus le travestissement à cette époque-là, ça existait évidemment bien avant et puis bien après. En tout cas, merci Alice Orange. Le Festival de Sablé dure jusqu'au 28 août.
Merci Victor de Quiver pour ce Journal de la Culture.